Le journal d'Haïti et des Amériques présenté par Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Mehdi, merci. Il est 8h10 à Port-au-Prince. Le sort des migrants haïtiens renvoyés manu militari de République dominicaine fait toujours la une. En Haïti, une marche est annoncée aujourd'hui à Port-au-Prince. On en parle avec Godson Pierre d'Alter Press. La sécheresse en Bolivie, c'est notre dossier du jour. On ira aussi faire un tour du côté du mondial de foot. L'Équateur joue ce mardi. Et puis, dans le journal de la première, il sera question d'université sur l'île de Saint-Martin, Benoît Ferrand.
Eh oui, une antenne du pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles pourrait ouvrir ses portes en 2024 sur l'île de Saint-Martin.
On se retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous. C'était il y a un peu plus de deux semaines en République dominicaine.
Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar.
Le président Luis Abinader promettait non pas seulement de poursuivre, mais aussi d'augmenter les expulsions de migrants sans papiers présents en République dominicaine. Le 11 novembre dernier, il signait un décret pour donner davantage de pouvoir aux forces de l'ordre pour mener cette politique. Depuis, d'après nos confrères de Radio-Canada qui citent les médias dominicains, entre 800 et 1000 Haïtiens sont expulsés chaque jour. Des hommes, des femmes enceintes, des enfants qui décrivent des abus et des mauvais traitements. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du site Alter Press, en ligne avec nous de Port-au-Prince. C'est à lire sur votre site aujourd'hui, Godson, pour protester contre ces expulsions et ces mauvais traitements. Plusieurs organisations de droits humains appellent à une marche ce mardi dans les rues de Port-au-Prince. Quelles sont ces associations ?
Bien, parmi ces organisations figure la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR, et la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Elle condamne les actions qualifiées de xénophobes et racistes de l'État dominicain. Elle critique aussi le gouvernement dominicain qui ne prend aucune disposition pour garantir les droits des migrants haïtiens.
Un dossier Godson, dans lequel le clergé catholique fait entendre sa voix.
Une douzaine de prêtres de Dahabon, ville frontalière avec Wanamete dans le nord-est, confirment en effet la déportation de mineurs non accompagnés à la frontière et vont ainsi à l'encontre des affirmations des autorités dominicaines. Nous sommes attristés par le nombre de mineurs non accompagnés qui ont été emmenés à la frontière, soulignent ces prêtres dans une note qu'ils nous ont transmise. Ils dénoncent une violation de la Constitution dominicaine et des lois, des conventions internationales également. Ils demandent l'arrêt de telles pratiques et méthodes et prônent la régularisation de la main-d'œuvre haïtienne en vue d'une politique migratoire efficace.
Et pendant ce temps, Godson, quelle est la situation à la frontière ? Y a-t-il toujours des blocages côté haïtien pour protester ?
Oui, la tension persiste malgré la réouverture mouvementée de la frontière du côté de Wanamete. Nous avons appris hier qu'il y a eu des frictions dans le point frontalier de Belader à l'est. Des manifestants haïtiens ont bloqué ce point frontalier, paralysant l'écoulement de produits dominicains en signe de protestation contre les déportations massives. À un certain moment, des coups de feu ont été tirés par des soldats dominicains. On n'a pas rapporté de victimes.
Godson Pierre, rédacteur en chef du site Alter Press, où tout ça est à retrouver. Merci beaucoup. Une précision encore au sujet d'Haïti. On évoquait ici hier la rentrée des classes qui se fait très timidement dans le pays. Contacté par nos confrères du Nouvelliste, le ministre de l'Éducation nationale fait savoir qu'à ce jour, ce sont un peu plus de 34% des écoles qui fonctionnent en Haïti.
RFI, as vozes do mundo.
10h14 à Brasilia. Bonjour Rémy Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Le Brésil où se poursuit le travail de transition avant la prise de fonction de Lula en janvier. Le président élu qui tient d'ores et déjà une de ses promesses de campagne à Rim, le programme social Bolsa Familia sera prolongé pour les 4 prochaines années.
Exactement, c'est à la une de Carta Capital. Les Brésiliens les plus démunis continueront donc à recevoir l'allocation de 600 reais, soit un peu plus de 100 euros par mois. Le Sénat a validé le projet de loi hier lundi. Il s'agit en fait d'une proposition proposition de révision constitutionnelle qui prévoit de sanctuariser 198 milliards de reais par an nécessaires pour garantir le paiement de l'allocation. Cette somme ne fera d'ailleurs pas partie du budget dont les dépenses sont plafonnées. Selon le journal Zero Hora, Lula a dû s'impliquer personnellement dans les négociations à Brasilia avec les parlementaires des deux chambres qui doivent encore peaufiner le texte. Un accord est prévu avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, écrit Zero Hora.
Et pendant ce temps, Harim, l'un des fils du président sortant, Jair Bolsonaro, Eduardo, a été lui filmé au Mondial de foot au Qatar alors qu'il célébrait la victoire de la Seleção hier contre la Suisse, ce qui a suscité des vives critiques de la part de certains bolsonaristes.
Exactement, ces bolsonaristes, Michael, sont toujours en train de camper devant les casernes militaires au Brésil et ils réclament haut et fort un coup d'État. Ils sont persuadés que ce n'est pas Lula qui a gagné l'élection présidentielle, mais Jair Bolsonaro, et ils estiment que tant que le coup d'État n'a pas lieu, tant que le véritable Brésil n'a pas été rétabli, eh bien, il convient d'ignorer la Coupe du Monde et les performances de l'équipe brésilienne. Sur une page Instagram d'un groupe extrémiste pro-Bolsonaro, publié par le journal Folha de São Paulo, on peut d'ailleurs lire « Incroyable, ils sont là au Qatar à participer à ce spectacle de pain et de jeu ». Alors que le peuple rassemblé devant les casernes demande que les choses changent, quel mauvais exemple.
Ça, en tout cas, c'est l'avis des bolsonaristes, Harim. Mais dans les faits, de nombreux Brésiliens célébraient hier soir cette victoire de leur équipe 1-0 contre les Suisses, comme par exemple à Rio. Oui, Sarah Cozzolino pour RFI.
Dans ce bar du quartier de Gloria, les supporters étaient tendus pendant le match.
C'était de l'adrénaline pure, mais heureusement, tout s'est bien terminé.
Malgré l'absence de Neymar, blessé à la cheville, la Seleção est la meilleure de ces derniers.
Toutes les équipes qui jouent contre le Brésil sont sur la défensive. Ils restent en arrière et attendent les Brésiliens en contre-attaque. C'est toujours comme ça. On dirait qu'ils ont peur de jouer contre le Brésil.
Ce supporter porte un maillot de la Seleção blanc pour ne pas être associé aux électeurs de Jair Bolsonaro, défait lors de la présidentielle. Au contraire, Eucilia, électrice de Lula, tient à porter le maillot jaune et vert.
Avant, je n'avais pas le courage de le mettre à cause de Bolsonaro, mais aujourd'hui, je suis fière de ses couleurs et je les porterai toujours.
Le temps du match, on ne parle pas politique dans ce bar. Et à la fin, le patron monte le son de la samba. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Le Brésil, qui est l'une des trois équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale du Mondial. Les Équatoriens, eux, n'auront besoin pour cela que d'un nul face aux Sénégalais qu'ils affrontent dans maintenant une grosse heure. Félix Torres est joueur équatorien et bien sûr, il veut y croire.
Bon, je pense que nous nous sommes mentalement préparés à ce match contre le Sénégal. Nous avons travaillé pour affronter cette équipe. Il faut maintenant qu'on réussisse à bien s'en sortir et qu'on fasse en sorte que ce soit un bon match.
Le joueur équatorien Félix Torres au micro de Carlos Pizarro au Qatar, Équateur, Sénégal. Ce sera à suivre sur les antennes africaines de RFI à partir de 15h, temps universel.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et on prend maintenant avec vous, Harim, la direction des États-Unis où Joe Biden demande au Congrès de légiférer sans délai pour contrecarrer une grève qui s'annonce massive dans le secteur ferroviaire. Ce sera la semaine prochaine, grève qui pourrait paralyser 7000 trains par jour. Un autre sujet aussi fait la une, cette certitude. L'État de Floride est définitivement perdu pour les démocrates en 2024, année de la présidentielle. Une bonne nouvelle, soi-disant, Harim, pour la politique étrangère américaine.
Oui, c'est du moins ce que pense le Washington Post. Mais quelle explication ? Jusqu'à présent, écrit le journal, la Floride était un swing state, donc un État qui penchait tantôt vers les républicains, tantôt vers les démocrates. Et de ce fait, afin de séduire les électeurs volatiles, eh bien, le président Joe Biden poursuivait une approche conservatrice, celle de son prédécesseur Donald Trump à l'égard de Cuba et du Venezuela. Mais comme à présent, il n'y a plus aucun espoir pour les démocrates de récupérer cet État en 2024, eh bien, le chef de la Maison-Blanche pourrait adopter une stratégie plus pragmatique à l'égard de ces deux États, écrit le Washington Post. D'ailleurs, il est déjà en train de le faire un peu, ajoute le journal. Samedi dernier, par exemple, l'administration Biden a annoncé un allègement des sanctions contre Caracas en autorisant le géant pétrolier Chevron à reprendre partiellement, en tout cas, ses extractions d'hydrocarbures au Venezuela. C'est le chemin qu'il faut suivre, selon le Washington Post, car il s'est arrivé que toute la pression du gouvernement américain pendant les dernières années n'a pas suffi pour renverser le régime de Nicolas Maduro.
Et ce n'est pas de pétrole dont il est question depuis hier en Argentine, mais de lithium. Jusqu'à ce soir, les acteurs du secteur sont réunis dans le pays. L'Argentine, qui fait partie du triangle du lithium avec la Bolivie et le Chili, trois pays qui concentrent à eux seuls près de 60% des ressources mondiales de ce précieux minerai, indispensable pour, par exemple, les batteries de voitures électriques. Et à l'heure où la demande explose, Marcelo Stico, hydrogéologue argentin de l'Université de Buenos Aires, alerte, l'extraction du lithium pose un vrai défi environnemental.
Le cœur du problème, ce n'est pas tant l'extraction du lithium en soi, mais la technique d'évaporation qui est employée en Amérique du Sud pour l'extraire. Lorsque l'on fait évaporer la saumure, cette eau riche en sel et qui contient du lithium, cette eau n'irrigue plus le sol, mais part dans l'atmosphère. Cette technique revient à retirer plus d'eau qu'il ne pleut. En termes de production, l'Argentine produit 22 000 tonnes de lithium par an, et ça revient à utiliser autant d'eau que pour une ville de 70 000 habitants. Par ailleurs, lorsqu'on utilise l'eau des nappes phréatiques pour ces piscines d'extraction, il ne reste plus que les sels dans les sols, et cela provoque une salinisation irréversible de l'eau de ces nappes. L'autre problème, et non des moindres, c'est qu'entre 10 et 30% des sels sont abandonnés dans les piscines d'évaporation utilisées pour l'extraction, dans des conditions inadaptées.
Des propos recueillis par Raphaël Morand, l'environnement encore, et la Bolivie que l'on citait, où la saison des pluies aurait dû démarrer déjà il y a plusieurs semaines. Mais pour le moment, pas une goutte d'eau n'est tombée dans plusieurs régions, notamment sur les hauts plateaux, la faute au phénomène climatique appelé la Niña, la sécheresse en Bolivie. C'est le dossier du jour d'Alice Campagnol.
Les membres de la communauté de Chuquipata au bord du lac Titicaca se réunissent aujourd'hui dans un lieu sacré pour un rituel bien particulier, une prière pour demander la pluie. Rituels andins, prières catholiques, les foi se mélangent pour réclamer l'eau du ciel. Don Franklin est le dirigeant de cette communauté.
Aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous avons convoqué toute la communauté pour faire revivre la tradition de nos ancêtres, prier pour le climat, face à cette sécheresse qui dévaste notre pays.
En effet, la pluie a du retard cette année, particulièrement dans les Andes. Les premières précipitations auraient dû démarrer en octobre, mais rien pour le moment. Alors les cultures des zones rurales en ont pris un coup, dont Franklin.
Ici, on cultive surtout des pommes de terre et des fèves, mais aussi toute une variété de légumes d'hiver. Normalement, nous aurions dû semer en septembre ou en octobre, mais à cause du manque d'eau, les sols sont très durs, alors nous n'avons rien planté pour le moment. Et si l'on ne cultive rien, c'est simple, il y aura des pénuries l'an prochain.
Si non hay cultivo, si non hay siembra para el año, no hay, va a haber escasez.
Sur les hauts plateaux andins, le manque de précipitations est conjugué avec une absence d'infrastructures adéquates pour l'irrigation. Et justement, quelques jours après cette prière collective, dans la ville de La Paz, une manifestation d'habitants des environs du lac Titicaca vient faire des réclamations au gouvernement.
Nous réclamons la construction d'un barrage, car jusqu'à présent, nous n'avons pas pu semer nos pommes de terre. Nous ne garantissons pas de pouvoir nourrir l'ensemble de la société bolivienne l'année prochaine.
Que se passe-t-il donc avec le climat pour qu'il déchaîne les colères et fasse mettre les communautés à genoux? Au CENAMI, l'institution en charge des informations de météorologie, le chef de l'unité de climatologie, Willy Rocha, donne quelques explications.
Il faut bien comprendre que le terme sécheresse a plusieurs significations. Il n'y a pas seulement la sécheresse météorologique ou climatique. Il existe aussi la sécheresse agricole, hydrologique et socio-économique. Actuellement, nous faisons face à un phénomène de la Niña conjugué avec les changements climatiques. Donc en Bolivie, on vit une situation de précipitation très basse, en déficit par rapport à la normale, depuis un certain temps déjà, au moins depuis 2021.
Et cette absence de pluie a un air de déjà-vu. En 2016, les réserves d'eau de La Paz étaient à sec. Coupure d'eau de plusieurs jours, distribution dans des citernes pendant des mois. La ville avait dû se débrouiller tant bien que mal.
C'est vrai, en 2016, nous avons vécu le même scénario de déficit de pluie. Auparavant, la situation n'avait jamais été aussi critique. Mais attention, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte ici, et notamment la densité de population. Nous n'avons pas le même nombre d'habitants qu'il y a 10 ans. Donc auparavant, il a pu y avoir un manque de précipitations, mais qui ne nous avait pas autant affectés qu'en 2016. Depuis lors, les autorités ont quand même pris des mesures et nous disposons maintenant d'un plus grand nombre de réservoirs d'eau.
Les réserves actuelles permettraient une alimentation en eau de la capitale administrative jusqu'en mai 2023, et ceci sans prendre en compte le fait qu'il devrait commencer à pleuvoir d'ici quelques semaines. Pas de scénario catastrophe quant à l'eau potable en ville donc, mais une nouvelle réalité certainement, celle de saisons moins prévisibles qu'auparavant. Alice Campagnol, La Passe, RFI.
La Passe, où il est 9h25.
RFI à La Passe, 106.9 FM.
L'oiseau bleu de Twitter chante encore, mais jusqu'à quand, Arim? On termine avec l'avenir du réseau social qui continue de faire débat aux États-Unis.
Oui, Elon Musk s'en prend à Apple et cherche la confrontation. Titre ce matin, le New York Times, What's going on, Tim Cook? Que se passe-t-il, Tim Cook, écrit le propriétaire de Twitter dans un message destiné au chef de la marque à la pomme. Selon Elon Musk, Apple menacerait de retirer le réseau social de son magasin d'applications incontournable sur les iPhones et iPads. D'après le Washington Post, au premier trimestre cette année, Apple était le principal annonceur sur Twitter, dépensant 48 millions de dollars. Mais comme d'autres annonceurs, Michael, Apple est en train de prendre ses distances par rapport à la plateforme.
Avec Elon Musk à sa tête, qui est en faveur d'un relâchement de la modération des contenus sur le réseau social, une attitude qui vient de sa vision absolutiste de la liberté d'expression.
Exactement, et de ce fait, près de la moitié des annonceurs, une cinquantaine environ, ont déjà quitté Twitter, selon un rapport publié par USA Today. Certains utilisateurs aussi, comme l'écrivain américain et doyen de la Columbia School of Journalism, Jalani Kopp, dans une tribune publiée par le New Yorker, reproche à Elon Musk une gestion, je cite, « cynique » de la plateforme qui crée un environnement accueillant pour des positions extrémistes jusqu'à présent bannies de ce réseau social, Michael.
Arim Lipold pour La Presse, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Une antenne du pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles devrait bientôt ouvrir ses portes sur l'île de Saint-Martin.
Une délégation de l'université s'est récemment rendue à Saint-Martin et a pu visiter le site où sera installée cette antenne, une fois obtenu, bien sûr, le feu vert du ministère de l'Enseignement supérieur. Christelle Martial.
Il serait donc question d'ouvrir une antenne du pôle Guadeloupe de l'UA à Saint-Martin. Une nécessité selon les autorités locales, lassées de voir certains étudiants se diriger vers Sint-Maarten pour poursuivre un cursus universitaire et d'autres de quitter le territoire. C'est pour arrêter cet exode qu'une antenne de l'UA pourrait être une opportunité pour le territoire, d'autant que les diplômes obtenus en partie hollandaise ne sont pas reconnus en partie française. Pour tout cela, le président Mussington insiste quant à une implantation de l'Université des Antilles sur son territoire. Un bâtiment aurait même été trouvé à Marigot pour abriter les services de l'UA, mais se pose toujours la question du parking pour les étudiants et pour les enseignants. Dans un premier temps, c'est le personnel du pôle Guadeloupe qui fera le déplacement. En attendant, on peut espérer, et si la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau donne son accord pour une implantation, une rentrée universitaire à Saint-Martin en 2024.
Direction la Martinique avec l'audience devant la cour d'appel de Fort-de-France qui a tourné court hier. Les avocats de l'association des victimes du crash aérien de 2005 ayant quitté la salle. Renan Bonnec.
On ne comprend pas. J'ai perdu mon frère, ma belle-sœur, des oncles et tantes.
Incompréhension et colère parmi les quelques citoyens, amis et membres des familles des 152 victimes martiniquaises venues réclamer justice. Malgré des procurations bonnes et due forme, certains proches n'ont pas pu se rendre dans la salle d'audience de la cour d'appel. Même sort pour l'expert mandaté par l'AFCA, l'association des victimes, Jacques Itsueta.
C'est une décision incompréhensible. C'est bien la première fois qu'il m'arrive ce genre d'aventure dans une audience publique.
Ce spécialiste de la sécurité aérienne est venu démontrer que la surcharge de l'avion est la principale cause de l'accident, alors que le procès a conclu à une erreur de pilotage. Mais les experts de cette thèse ne sont pas présents aujourd'hui pour amener un débat contradictoire demandé par Rose-Marie Taupin-Pédican, présidente de l'AFCA.
Ils n'ont pas besoin de l'expert physiquement, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes convoqué leur expert pour qu'il soit à l'audience. Alors nous avons pris l'initiative de le faire. Nous les avons convoqués à leur place. Mais ils ne sont pas venus, ce à quoi on s'attendait de toute façon.
Une autre affaire judiciaire martiniquaise, à l'instar du scandale du chlordécone, qui laisse encore planer le spectre du non-lieu, alors que sur la grille de la cour d'appel de Fort-de-France, 152 cœurs en papier ont été accrochés comme autant d'âmes que la Martinique ne doit pas oublier.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. À demain pour un nouveau rendez-vous d'Haïti des Amériques. Celui du jour était réalisé par Claude Battista. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur RFI.fr et les applications de podcast. Très bonne journée à tous. À l'écoute de la Radio du Monde.